Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
Encore une grosse semaine sur la planète. Ben, ben des sujets concernant les États-Unis d'Amérique. Et ça tombe bien. On est mardi. On va rejoindre Catherine Loubier, notre chroniqueuse émérite, qui est d'ailleurs présentement, je pense, à New York. Salut Catherine, comment ça va?
Oui, bonjour. Oui, je suis à New York. Ça va bien, merci.
T'étais pas là au discours de Trump devant l'ONU?
Non, j'étais devant mon ordinateur à l'écouter.
Ouais, moi aussi, je l'ai écouté. Écoute, on y reviendra parce que je pense que la grosse histoire depuis en fin de semaine, c'est la reconnaissance officielle de l'État palestinien par d'abord le Canada, qui est quand même, ça a l'air anodin, mais je pense à une certaine importance dans l'histoire. Le Canada qui a été le premier à faire le move. En même temps, tout ceci était organisé, puisque là, dès les heures qui ont suivi, il y a un paquet de pays qui ont embarqué, là, l'Angleterre, la France, la Belgique et autres, pour reconnaître l'État palestinien. Évidemment que c'est la chorale chante faux, là, puisque les États-Unis, oui, les États-Unis n'ont pas embarqué. Et ça devient, encore une fois, c'est difficile d'avoir une discussion, Catherine, équilibrée et calme quand on parle Israël-Palestine. Puis je vais te laisser aller dans ton analyse parce que il y a probablement du pour et du contre des deux bords.
Oui, c'est ça. C'est des petits sujets légers cette semaine. Effectivement, pour une partie des gens qui réagissent à ce qu'ils voient à Gaza, et la pression sur les politiciens que ça cause de voir les images, les morts, ils jugent ça inacceptable. Et donc, c'est un nombre de pays qui ne veulent plus attendre les conditions sur lesquelles ils s'étaient entendus pour ne pas reconnaître tout de suite l'État palestinien. Ils se disent « Unissons notre voix en diplomatie, reconnaissons l'État de la Palestine. » Puis, ça va comme faire un rempart aux attaques continues d'Israël sur Gaza. C'est un peu leur raisonnement. Et ils reconfirment là-dedans qu'il doit y avoir deux États côte à côte. Puis il y a l'autre groupe qui dit « Non, en fait, ce que vous faites, c'est récompenser des terroristes sadiques du Hamas qui ont tué des milliers d'Israéliens dans les attaques du 7 octobre. »
Là, je t'arrête tout de suite. Parce que là oui, moi, j'aimerais ça qu'on fasse une distinction, OK? C'est quoi la Palestine? Puis c'est quoi le Hamas? Parce que pour moi, un va pas sans l'autre. Mais pour certains, c'est comme si c'était les Palestiniens sont prisonniers du Hamas. Si on tasse le Hamas, parce qu'il faut le dire quand même, Catherine, dans l'appui de l'État palestinien, les pays ont quand même mentionné que le Hamas devait être éjecté, là. Le Hamas ne devait pas être impliqué dans cette histoire-là. Ça devait être un pays neutre, normal.
Ben oui, mais la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe.
Ben
c'est que le Hamas est en charge. Le Hamas a pris le contrôle du pays. C'est un groupe terroriste. Et on a bien beau dire, on reconnaît l'État palestinien. De quelle frontière il parle? De quel leadership il parle? Le leadership de l'autorité palestinienne n'est pas en contrôle du territoire imaginaire, si on veut, là, de la Palestine dont il parle. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de devise, il n'y a pas d'élection démocratique qui a eu lieu. Il y a eu une prise du pays par le Hamas et le Hamas, on l'a dit à plusieurs reprises, prennent la population en otage, s'investissent dans des écoles pour y cacher des opérations, etc. Donc, c'est un territoire qui, pour l'instant, est encore pas mal aux mains des terroristes. Et c'est un peu, tu sais, la vision du monde de deux visions opposées de ce qu'on devrait faire dans la région. Mark Carney, en reconnaissant l'État palestinien en ce moment, puis c'est pas unique, là. L'État palestinien a été reconnu par des dizaines et des dizaines de pays. C'est le moment où il le fait maintenant, comme tu l'as dit au début de l'émission. Il change significativement la politique étrangère canadienne, qui a toujours affirmé auparavant que cette reconnaissance-là ne viendrait qu'après un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens, ce qui n'est pas le cas. Après avoir démilitarisé Gaza, le territoire West Bank, le territoire aux alentours, et aussi, finalement, après avoir assuré la sécurité des Israéliens en Israël.
C'est
donc,
pas fait.
Il devance ça et il dit non, on s'allie tout de suite parce qu'on pense que ça va faire un rempart diplomatique efficace. Donc, c'est très symbolique, si on veut, d'une certaine manière, et c'est comme s'il appuyait, selon eux, sur un frein par rapport aux attaques d'Israël sur Gaza, mais je sais pas. Et les États-Unis s'y opposent aussi, hein?
Ben oui, mais c'est un peu utopique. C'est juste que moi, je trouve que ça fait un peu grand rêveur dans son salon qui a pas les mains dedans parce que d'abord, le Hamas a remercié le Canada. Tu sais, ça, là, tu veux pas ça, là. Tu veux pas que le Hamas dise hey, thank you, bro, on t'aime au bout, merci. Ben, tu sais, c'est... Alors, d'abord, le Hamas remercie et je veux revenir sur les éléments de qu'est-ce que la Palestine, parce que je regardais une carte. On pense souvent à la Palestine étant la bande, justement, de Gaza, là, tu sais, sur le bord de la mer.
Ouais.
Mais ça inclut aussi un paquet de. Comment je dirais, de territoire persillé à travers la Cisjordanie, qui a été aussi infiltré par des colonies israéliennes. Tu sais, comment on départage tout ça? Tu sais, la façon de le dire, c'est comme si on parlait à des simplets, garde, ça va être facile, on va reconnaître la Palestine, le Hamas va s'en aller, puis
ouais,
tout va être correct.
C'est la notion, oui, mais c'est la notion. Regarde, moi, je suis allée l'été dernier en Israël sur une mission avec d'autres, des représentants politiques puis de la société civile. On a passé une grosse semaine à se faire expliquer par un guide extrêmement expérimenté toute cette histoire-là. C'est pas facile à comprendre. Il y a énormément d'histoire d'abord, hein?
Oui.
D'histoire derrière ça, puis de conflits et d'arrangements, je te dirais, qui ont été aménagés, un mur entre Israël et le West Bank, par exemple, pour délimiter les territoires de chacun dans cette région-là. Ce n'est pas évident. Puis en plus, il faut dire qu'Israël était attaqué de 5 fronts, hein, par des milices financées par l'Iran, au bout de la ligne, c'est
oui.
ça, là. Et donc, c'est un territoire qui est très volatile, difficile, mais ce que les Américains disent du côté républicain, c'est que la reconnaissance à ce moment-ci est en désaccord avec la politique américaine et pourrait entraîner des mesures punitives parce que pour eux, ça donne la légitimité au Hamas et ça met en danger la sécurité d'Israël et ça met en danger le chemin vers la paix. Donc, c'est deux visions vraiment opposées sur ce qu'on doit faire en ce moment. Puis, on le voit très bien aux Nations unies. Il y a beaucoup de réactions sur les médias sociaux et bien sûr de la communauté juive. Puis, M. Carney est allé plus loin que ça, hein, aujourd'hui. Il a participé à, je pense que c'est hier, là, une discussion là, question-réponse pendant qu'il était à l'ONU. Et il a dit, si une force multinationale se confirme et est déployée en Palestine, hein, il a dit pour imposer, le mot est important, la paix, eh bien, le Canada pourrait bien être sur le terrain, pourrait bien faire partie de cette coalition-là. Et donc, il reconnaît l'État de la Palestine et il veut envoyer finalement les forces canadiennes
wow.
dans une éventuelle force multinationale
ouais.
là-bas pour imposer la paix et faire avancer le processus de paix. Donc, vous voyez, là, ça ne s'arrête pas là.
Mais ça, là, dans notre légendaire chicane avec les... ou guerre, là, comme certains le disent, là, avec les États-Unis, je ne suis pas certain là, qu'on est en train de se rapprocher.
Ben, Donald Trump n'a pas insisté sur ça particulièrement aujourd'hui. Bien
il y en
sûr,
a parlé,
il l'a dit dès
mais
le début.
Ouais.
Oui, oui. Il a dit dans son discours de plus d'une heure à l'ONU, bien sûr que c'était une récompense au groupe terroriste Hamas qui rejette la paix. Hein. Le Hamas, en fait, veut éliminer les valeurs et les démocraties comme la nôtre. Et le Hamas veut éliminer tous les Israéliens de la surface de la Terre.
Tous les Juifs même, si on veut pousser la réflexion.
Hein? J'étudie juif.
Non, mais tu as dit israélien, mais c'est tous
non,
les
non,
juifs.
Non, non, les juifs, les juifs. Et donc, c'est un peu ce qu'il disait, ce qu'il rappelait, et c'est pas surprenant. Puis je pense qu'il y avait d'autres messages à livrer aujourd'hui à l'ONU, et c'est ce qu'il a fait. On peut en parler si vous voulez, mais
oui,
sa position est connue sur la Palestine.
Mais concernant, tu sais, puis Trump, visiblement, je suis pas atteint là, du derangement syndrome. Là, non, mais c'est parce que je sais qu'il dit un paquet de niaiseries, mais des fois, je veux dire, oups, ouais, là, tu sais, quand il a commencé à les sermonner en disant « je vous nomme pas, mais je vous vois », en, les, en pointant la salle. Il disait ceux qui continuent à acheter du pétrole en Russie, ceux qui. Il est allé un peu leur faire un genre de sermon, là, tu sais.
Évidemment. D'abord, il a dit que les Nations unies, c'est une organisation inefficace. Alors, ça, il dit depuis longtemps que ça a besoin d'être réformé. Il n'y a pas eu de réforme nécessaire. C'est la position des Américains puis du Canada en passant depuis des années. C'était la position du Canada. Il a accusé l'ONU de financer un assaut sur les frontières des pays de l'Occident. Il a dit aux pays de l'Occident, à l'Europe en particulier, vos politiques d'immigration, vous avez perdu le contrôle complètement et vous envoyez vos pays en enfer. Il a dit Londres est sous emprise de l'islam. Ils ont adopté la loi charia. La ville est ruinée. Il a vraiment été très, très dur envers les politiques d'immigration et le soutien de l'ONU à ces politiques-là en disant vous allez dans le mauvais sens en ce moment, vous, les pays d'Europe, avec ça. Puis, il est allé aussi sur les changements climatiques. Hein. Il a appelé ça une scam. Donc, il est alarmiste. Il a dit vous avez mis de l'avant des politiques sévères pour les changements climatiques. Vous ruinez vos économies avec ça pendant que certaines parties du monde augmentent leur gaz à effet de serre. Il a accusé aussi très, très fortement, comme tu le disais, la Chine et l'Inde d'acheter du pétrole russe et financer une guerre combat.
Et même certains pays de l'OTAN. Qui n'a pas nommé.
Oui,
je dis, je vous nomme pas, mais je vous vois, là, puis ils pointaient la salle. Là,
oui, oui ben, bien sûr. Et c'est vrai, mais quand ils n'ont pas d'alternative, c'est ce qu'ils continuent à faire. Alors, lui, il veut les amener, évidemment, à arrêter ça et acheter du pétrole et du gaz des Américains ou en tout cas de pays sûrs. Donc, oui, il a dit tout ça, puis finalement, il a été assez énergique aussi sur le soutien du christianisme. Il a dit que c'était la religion la plus persécutée au monde. Donc voilà, et ça fait...
Ça, là, il y a un truc depuis, je te dirais, depuis un certain temps. Tu sais, Trump avait ressorti sa Bible, alors qu'on sait très bien que Trump n'a jamais vraiment prié le Seigneur avant de faire ses transactions immobilières. Mais il y a un retour. Je sais que ça a toujours été présent aux États-Unis, puis tu y vas très souvent, tu es consciente de ça. Quand tu arrives en bas de Washington, D.C., quand tu passes Richmond, en Virginie, et vers le centre, tu as la Bible Belt qu'on appelle. Je sais que les Américains sont encore très religieux, mais il me semble que depuis Charlie Kirk, ça a repris une swing. Il me semble
que c'est...
Là, la religion, moi, je ne suis pas un grand fan des religions en général. Est-ce qu'on est en train de voir renaître une espèce de d'État plus religieux ou ça l'a toujours été, puis je me trompe, puis c'est une mauvaise vision?
Non, mais il l'a dit. Il dit il faut plus de religion dans nos vies. Il l'a carrément dit dans son discours à l'ONU. Puis c'est comme si on assistait à une confrontation spirituelle, si on veut, là, entre l'Occident et l'islam, les valeurs traditionnelles américaines et même évangélistes, et l'éclatement des valeurs et des genres de l'autre bord. Là. Tu sais, c'est à ça qu'on assiste. Et je pense que dans ce grand rassemblement, ce grand moment télévisé de plus de 5 heures avec 75 000 personnes qui étaient la soirée en l'honneur de Charlie Kirk qui a été assassiné en Arizona, là, ils se sont réunis dans un aréna. Mais c'était un mélange de rassemblement religieux, de funérailles puis de rallye politique.
Ouais.
Mais juste avant que tu continues, Catherine, parce que je veux rester sur le début de ce que tu as dit. Est-ce que c'est parce que la nature a horreur du vide? Et parce qu'il y a comme effectivement là, une espèce de confrontation entre l'islam et la religion catholique, christianisme, ou peu importe comment on l'appelle, là, bref.
Et toutes ces branches.
Et toutes ces branches, là, voilà. Là. Est-ce que c'est parce qu'on se dit, ou du côté des États-Unis, consciemment ou pas, on est aussi bien d'afficher et de dire au monde, s'ils ont à prendre une religion, c'est de prendre la religion catholique et ou ses branches? Sinon, c'est l'islam qui va rentrer parce que la nature a horreur du vide et des gens qui se disent comme un peu comme JC, moi, les religions, c'est moins mon dada. Ouais. Ben c'est pas tout le... Il y a des gens qui se font constamment influencer. Donc, eux autres, des fois, j'ai l'impression que c'est ça qu'on se dit, c'est qu'on est aussi bien de prendre le catholique.
Je vais choisir mon bord.
Oui, ma religion, ben, sinon, c'est l'islam qui va rentrer.
Ben oui, il y a une partie de cela, là, puis je veux pas faire de généralisation, là, mais oui, il y a certainement une partie de cela où les Américains religieux, fondamentalistes, les nationalistes américains, modérés ou évangéliques conservateurs, gonflent le dos devant la montée de religions et de mouvements qui sont contraires à leurs valeurs. Hein? Et c'est pas, c'est l'histoire du monde, ça.
Oui,
c'est l'histoire du
absolument.
Monde. Quand on est devant quelque chose de subversif, là, qui veut changer la loi et l'ordre de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, eh bien, on se retourne souvent dans l'histoire, on l'a vu vers la religion. Tu sais, au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, mm-hmm. on mettait des gens sur la place publique et puis on mettait un gros A pour dire ils ont commis l'adultère. Donc, on essaie d'avoir des soupapes d'évacuation, puis on essaie... simplement dit, qui se ressemble, s'assemble.
Oui.
Et donc,
dans la tourmente, on retourne aussi dans nos groupes associés à nos valeurs de base. T'sais, on va se regrouper comme ça. Mais ça, par contre, c'est pas toujours positif parce que là, on se radicalise aussi puis on va vraiment...
Ben, ça polarise.
Exact, c'est ça.
Donc, on tombe aussi dans une ère où il y a beaucoup plus de polarisation. Puis il faut le dire aussi, ces jours-ci, de violence politique, ça mm-hmm. va jusqu'à... permettre à certaines personnes de dire pour affirmer mes vues politiques, je vais utiliser la violence. Et ça, c'est vraiment dangereux dans nos sociétés. On l'a vu avec Charlie Kirk, les deux tentatives d'assassinat sur Donald Trump. On l'a vu avec la représentante au Congrès au Minnesota
ouais.
et son mari qui se sont fait assassiner hein, carrément. Le mari de M. Pelosi, il y avait eu un intrus dans sa maison. On a toutes sortes d'exemples. Et je vais vous dire, il y a des exemples ici. Au Québec, on n'est pas... ils ont arrêté la GRC au mois de juin, un groupe d'extrême droite qui avait des armes. Et même moi, en 2014, quand j'étais au Parlement avec Stephen Harper à Ottawa, vous vous souvenez, ce gars-là qui s'était converti à l'islam et qui en voulait et qui était dans le mouvement djihadiste,
ouais, la fusillade
était entré au Parlement et avait tué un soldat sur la tombe du soldat disparu. Donc, on n'est pas à l'abri de ça et ça nous amène à parler aussi de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui constitue quelque chose qui est acceptable à dire sur toutes les tribunes publiques qu'on a maintenant, les réseaux sociaux?
Mm. Liberté d'expression, puis là, je vois le temps, il faut conclure, mais j'ai trouvé l'histoire de Jimmy Kimmel, écoute, qui a pris une proportion qui, moi, m'a complètement dépassé. Puis je t'explique, ouais. là, moi, là, la liberté d'expression, j'en suis, on travaille à Radio X. Constamment, des fois, là, on dit un peu trop là, ce qu'on pense, puis ça graffine, les gens n'aiment pas ça. Puis, tu sais, il y a eu une marche ici, il y avait 50 000 personnes là, il y a 25 ans à Québec pour sauver une plateforme où on faisait des choses autrement, où on allait dans des sujets, des coins d'ombre, où les gens ne mm-hmm. veulent pas toujours aller, tu sais, puis on pose des questions.
L'inconfort.
Qui sont exactement, mais ça fait partie pour moi tout ça de la liberté d'expression. Mais quand j'ai vu l'espèce d'enflure totale concernant Jimmy Kimmel, où il y a aussi une liberté économique en Amérique, là. T'es pas obligé de payer mm-hmm. quelqu'un pour qu'il puisse dire tout ce qu'il veut. C'est pas ça, la liberté d'expression. Jimmy Kimmel aurait pu s'ouvrir une page YouTube, puis de toute façon, il réintègre son émission. Là. Donc, finalement,
ben,
ça a duré 6 jours.
Il réintègre ce soir. Mais Nexstar et Sinclair, qui sont deux rediffuseurs, 25 % des foyers, disons, diffusés par ABC, le réseau sur lequel Kimmel est, ont décidé tout à l'heure qu'ils ne vont pas
les deux. Okay.
Présenter Jimmy Kimmel. Donc, il va falloir streamer sur Disney pour voir Jimmy Kimmel ce soir. Mais oui, ça prend en feu d'un bord puis de l'autre.
Ceux que ce sont des abonnés, Catherine, ils ne pourront pas le voir, là, Jimmy Kimmel. Là, c'est là leur. Puis ce sont des abonnés de Disney+. Ils ne pourront pas le voir.
Oui, c'est ça.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, ça coûte cher, Disney+, mais si vous l'avez, vous pouvez... Exactement. Donc oui, ça prend des voix qui dénoncent aussi parfois. C'est ce que le sénateur Ted Cruz, un ami de Donald Trump, un allié, a fait. Il s'est détaché en disant « Attention, on ne peut pas dire à quelqu'un « Tu ne peux pas dire ça. On t'annule des ondes parce qu'on n'aime pas ce que tu dis. » Il a tranché, il a mis une ligne dans le sable. C'est intéressant pour la suite. Lui qui a des ambitions présidentielles.
Elle y vante, hein?
Yes!
Et pendant ce temps, Carney fait pas des affaires puis il fait pas la une beaucoup.
Mais il fait pas de budget, pas de suite.
Non.
Mois de novembre. Merci, Catherine.
Non. Ça me fait plaisir.
Salut, bye. Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec à New York, toujours souvent, en tout cas aux États-Unis, conseillère principale à l'époque de Stephen Harper et un phare dans la nuit, dans cette tempête épouvantable. 13h19, on revient.
Willette. Non, en direct. On revient dans pas long. Radio X.